secretos de tu alma.
Les Racines du Ciel, une émission de Lilian Var, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Jean-Marie Porcher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Claude Carrière, qui nous accueille chez lui à Paris pour un nouveau volet de notre série Grand Témoin. Bonjour Jean-Claude Carrière.
Bonjour.
Et merci de nous ouvrir votre maison et l'album de votre parcours dans un monde tourmenté, mais qui vous a apporté, je crois, de grandes joies. Un monde dans lequel vous avez œuvré sous toutes les formes d'art qui étaient à votre disposition. En effet, vous êtes un homme de théâtre, scénariste, écrivain, metteur en scène, et en fait, on pourrait dire que si vous aimez à vous définir comme conteur, c'est parce que raconter des histoires est le point commun de toutes ces activités dans lesquelles vous vous êtes épanoui tout au long de votre vie et, oserais-je dire, en l'occurrence, de votre carrière. Mais vous êtes aussi un grand voyageur, une sorte d'explorateur des temps modernes qui tente de comprendre le monde en observant ses habitants, leurs coutumes et leurs œuvres. Vous avez publié d'innombrables ouvrages, que je ne pourrais donc pas citer ici, sur des sujets les plus divers, dont le point commun était peut-être justement cette exploration, exploration de soi, des autres, du monde. C'est aussi en explorateur de la condition humaine, parfois un peu tragique, que vous avez écrit votre dernier livre, « Croyance au singulier », publié chez Odile Jacob, qui a été couronné par notre partenaire le prix Psychologie Magazine FNAC, ce qui a été de fait le prétexte de cet entretien. Je dis bien le prétexte parce que ça fait très longtemps que j'avais en fait cette idée de venir m'entretenir avec vous. Mais avant de parler donc de votre vision du monde et des hommes tels que vous la développez dans ce livre particulier, j'aimerais peut-être que nous parlions d'abord de vos premières croyances. Vous les évoquez d'ailleurs dans le livre. Celles de votre enfance, celles qui vous ont construit, parce qu'après tout, les croyances peuvent parfois détruire, mais elles nous construisent aussi, d'une certaine façon. Et donc, toute cette formation, en réalité, qui vous a permis d'être aujourd'hui ce que vous êtes, et d'écrire un livre contre toutes les formes de croyances. Mais ça, on va y arriver à partir de ce long parcours qui a été le vôtre.
C'est pas contre toutes les formes de croyances, parce que que deviendrais-je si toutes les croyances disparaissaient? Je n'aurais plus rien raconté.
Évidemment.
C'est-à-dire que la croyance fait absolument partie de notre vie à tous, même si nous ne l'avons pas, ou croyons ne pas en avoir. Et quand j'invente un personnage, homme ou femme, qui m'est étranger, j'ai absolument besoin de savoir en quoi il croit, ou s'il ne croit pas. Ça m'aide beaucoup à trouver son action, proprement dite.
Et donc, les croyances de votre enfance?
Alors, moi, je suis né dans un tout petit village du Midi, Colombières-sur-Orbe, nommons-le, dans le département de l'Hérault, dans une famille catholique par tradition, à 250 mètres de l'église où j'ai été baptisé. Mon père était libre-penseur, il se disait libre-penseur, et ma mère était catholique par tradition, c'est-à-dire ce n'est pas une famille intégriste du point de vue catholique, mais le curé, à ce moment-là, avec sa soutane noire, faisait partie de la vie du village intimement. C'est-à-dire, il était un des trois pôles. Il y avait l'instituteur, en l'occurrence, c'était deux institutrices, le curé et le maire. C'était les trois pouvoirs en triangle. Maintenant, depuis plus de 20 ans, même 30 ans, je crois, l'église est fermée, il n'y a plus de prêtres. Il y a, je crois, dans toute la région, deux prêtres pour 38 paroisses. C'est-à-dire, c'est une religion qui a disparu, en tout cas, de nos campagnes. Donc, ce que je me demande, parce que je reviens tous les ans dans mon village, c'est que reste-t-il des croyances de mon enfance? On nous a appris le catéchisme, on nous a appris le credo, etc. Tout l'arsenal, je dirais, qu'il faut avoir dans sa besace quand on veut mener une vie de catholique. Et puis, j'ai fait ensuite 3 ou 4 ans pendant la guerre d'un collège religieux, où j'allais à la messe tous les matins, et 2 fois le dimanche, où je me confessais obligatoirement chaque semaine. Donc j'ai une vraie formation dans une tradition, la tradition catholique.
Et est-ce que vous aviez, enfant, une aspiration qu'on pourrait appeler spirituelle? C'est-à-dire, est-ce que cette formation, cette éducation qui vous était donnée, faisait un écho aussi plus intimement, ou c'était juste parce que ça se faisait que vous suiviez cet enseignement?
Je n'en ai pas souvenir. C'est-à-dire, les premiers textes que j'ai écrits quand j'avais 9 ans, entre 9 et 10 ans, étaient des histoires de western et de pirates, dans lesquelles la religion intervenait très peu. Je ne crois pas qu'il y avait de missionnaires. Oui. Je lisais Tintin au Congo et j'avais une bibliothèque chrétienne en un sens, mais aussi beaucoup de livres d'autres cultures, et en particulier des contes et légendes de tel ou tel pays, et de l'Inde, déjà. Oui. Et je peux vous raconter ce détail sur mon enfance que je devais avoir, je l'avais oublié, c'est ma mère qui me l'a rappelé plus tard, je devais avoir 6 ou 7 ans quand ma mère m'a demandé qu'est-ce que tu veux qu'on mette dans la crèche pour Noël. Dans la crèche, vous savez, qu'on reconstitue dans un coin de la cuisine. Et j'ai dit à ma mère, je voudrais un Bouddha.
Bouddha,
j'avais trouvé ce mot certainement dans des contes et légendes de l'Inde, sans très bien savoir ce que ça voulait dire. Ma mère, bien entendu, n'avait jamais entendu parler du Bouddha, elle est allée trouver le curé, et lui a dit, Jean-Claude voudrait un Bouddha dans sa crèche. Est-ce qu'on peut mettre, lui a dit le curé, je crois que le Bouddha est un philosophe chinois. Et donc, ma mère est allée à la ville la plus proche, dans un bazar, elle a trouvé un très gros Bouddha, mais de 40 cm de haut, en plâtre doré, qu'elle a ramené sur le porte-bagages de sa bicyclette. Nous avons mis ce Bouddha dans la crèche où il écrasait tous les petits santons autour de lui. Ce qui fait que quand les gens venaient le visiter, on l'enlevait discrètement. Ce Bouddha, je l'ai toujours en face de moi, là-bas, quand je travaille. Et chaque fois que je rentre dans mon bureau, je vais le saluer, c'est-à-dire je mets mon front contre le sien.
Enjamber les années, mais voilà. Mais plus tard, comment vous avez eu cet intérêt pour le bouddhisme?
Alors, le bouddhisme est venu par l'Inde et par tout le travail que nous avons fait avec Peter Brook sur le Mahabharata et la littérature sanscrite en général pendant 11 ans. La préparation de l'adaptation théâtrale puis cinématographique du Mahabharata a duré ce temps-là. Nous sommes allés très souvent en Inde, nous avons travaillé avec beaucoup de groupes de théâtre indien, à la fois traditionnel et moderne, avant d'oser écrire le Mahabharata. Et évidemment, en travaillant sur le Mahabharata, qui est un des textes capitaux de l'hindouisme, pas du bouddhisme, on a forcément entendu parler du bouddhisme en Inde, mais sans le toucher pratiquement, parce qu'il ne joue aucun rôle dans le... Sinon que dans certains chapitres du Mahabharata, on méprise les petits hommes jaunes, entre guillemets, et il y a certainement quelques allusions malsonnantes à l'égard du bouddhisme. Mais plus tard, on a créé le Mahabharata en 85, là nous sommes en 93, 8 ans plus tard, un éditeur français, le fils de Robert Laffont, me demande si ça m'intéresserait de faire un livre avec le Dalai Lama. Comme ça. Je lui dis, bien sûr, ça ne se refuse pas, mais le bouddhisme, je ne suis pas un spécialiste, il faut me donner un certain temps. Le Dalai Lama a demandé à voir quelques cassettes du Mahabharata, ça lui a plu, je l'avais rencontré une fois, comme ça, avec plusieurs autres personnes. Et finalement, il a dit oui, et m'a invité à Dharamsala à 2 reprises, chaque fois pour plusieurs semaines, où je suis allé d'ailleurs avec ma femme, Nahal Tajadot, qui est docteur en chinois et qui est spécialiste de l'histoire des religions de l'Asie centrale et qui m'a beaucoup aidé. Donc j'y suis allé et le livre est paru en 95. Il s'appelle La force du bouddhisme. Il a été estampillé par toutes les autorités bouddhiques et est publié un peu partout dans le monde, évidemment. Et avec le Dalai Lama, nous avons noué une relation amicale qui se poursuit encore par correspondance aujourd'hui. Il y a à côté de chez moi, dans le Midi, un centre à Roquerodonde, un grand centre bouddhique qu'il est venu inaugurer. Je suis allé avec lui, etc. Nous avons eu toute une suite bouddhique.
Mais est-ce que cette rencontre, vous diriez que c'est une rencontre avec... alors je dirais pas avec un maître spirituel, parce que c'est pas du tout ça votre façon d'aborder les choses, mais quand même, vous diriez que c'est un sage de notre temps, c'est quelqu'un qui vous a apporté aussi spirituellement, qui vous a aussi nourri sur ce plan-là, ou c'est juste une amitié, Jean-Claude Carrière?
C'est un personnage, j'évite les adjectifs extrêmes, mais assez merveilleux. La première chose qui frappe chez lui, c'est qu'il ne parle jamais en son nom. Il ne dit jamais « je ». C'est quelqu'un de tout, là, il était chef d'État à l'époque, chef d'État en exil, il ne l'est plus aujourd'hui, mais il ne parle jamais de lui comme s'il possédait quelque chose. D'ailleurs, il n'a rien. Il parle toujours au nom de son peuple ou au nom de l'humanité. En plus, il a une deuxième qualité pour moi énorme, c'est qu'il adore rire. Toutes les occasions de rire lui sont bonnes et de rire aux éclats. Aucun territoire ne lui interdit, même les territoires de discussion sexuelle ou autre, il est parfaitement à l'aise. Et ça, c'est de ce point de vue-là, du point de vue de son comportement, il est tout à fait exceptionnel. Du point de vue du bouddhisme, il ne faut pas oublier que il ne laissera pas le bouddhisme comme il l'a trouvé quand il est arrivé. Son influence a été très importante, y compris dans des traditions bouddhiques qui ne sont pas la sienne. La tradition tibétaine est très proche de la mongole, elles sont pratiquement la même, et donc il a commencé à travailler sur cette tradition-là, mais son influence est telle et son prestige ont été tels que ça s'est répandu partout. Par exemple, je vous donne un exemple. Il est à 15 ans, il est né en 35, à 15 ans en 1950, il est intronisé chef suprême du bouddhisme tibétain, c'est-à-dire chef matériel et spirituel. Bon, à 15 ans. C'est l'année, en 1950, où les premiers soldats chinois envahissent le Tibet. Il convoque son conseil des ministres, nous dirions, il faut l'imaginer, en grande robe jaune, grand chapeau cornu, vous voyez. Et il leur dit, qu'est-ce que nous faisons? Il a 15 ans. Et on lui dit, mais c'est rien, on va envoyer la déesse un tel combattre sur le front du sud, le démon un tel nous défendra très bien. C'est en 1950, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Et ça l'a frappé tout de suite, il n'y a pas cru du tout. Oui, il s'est dit tout de suite, non, là il y a quelque chose qui ne va pas du tout entre ce qu'on nous a appris et le monde d'aujourd'hui. Et à partir de là, il a commencé toute une série de réformes qu'il, bien entendu, 9 ans plus tard, à cause de sa résistance aux Chinois, l'ont obligé à quitter clandestinement le Tibet, à aller s'installer à Dharamsala dans le nord de l'Inde, et son rayonnement, le prix Nobel, etc., ses ouvrages ont conquis la planète entière. Maintenant, il est très difficile de parler du bouddhisme au XXe siècle sans évoquer ce Dalai Lama, là, j'ai envie de dire, parce que dans l'histoire des Dalai Lama, qui n'est pas très longue, remonte au XIVe siècle, il y a là d'insignifiants, voire quelquefois un peu dévoyé, le sixième en particulier, qui allait danser avec des filles dans des cabarets. Hein. Mais il y en a quelques-uns qui ont laissé une œuvre. En particulier le cinquième, contemporain de Louis XIV. Vous savez que Lhasa a été construite rigoureusement en même temps que Versailles. C'est amusant. Ah oui. Exactement. Oui. Donc le grand cinquième de Lhasa est quelqu'un qui a laissé une voix, c'est-à-dire une œuvre considérable, qui est encore étudié aujourd'hui et que le Dalai Lama actuel est venu un jour expliquer dans le centre bouddhique du Midi pendant 8 jours avec des traductions et des commentaires qu'il faisait lui-même. Il y avait 8000 bouddhistes du monde entier qui étaient venus. Richard Gere était là. Enfin, c'était exceptionnel. Tout le monde était assis et prenait des notes. On n'avait jamais eu la moindre traduction de cette voix-là, comme on dit, de cette œuvre-là. Alors, donc, il a fait beaucoup. Il a énormément travaillé. Il se repose un peu maintenant parce que donc il a plus de 80 ans. Il a un certain âge, mais il est en bonne santé. On a de bonnes nouvelles de lui et sa parole est toujours merveilleusement claire et presque, je dirais, presque indiscutable. Par exemple, quand il parle d'écologie, il n'en parle pas du tout comme nous en parlons. Pour lui, et je suis, on ne peut plus de l'avis, la première cause de nos malheurs, c'est nous. L'espèce humaine et l'espèce qui est en train de détruire la planète à son détriment. Et plus nous sommes nombreux, plus nous sommes malfaisants. Et il a dit cette phrase que j'ai trouvée toujours étonnante, la vie est devenue l'ennemi de la vie.
Oui, donc en fait, quand je vous écoute parler, je me rends compte combien finalement cette rencontre a aussi compté par rapport à votre propre relation aux religions, je dirais, puisque dans ce livre dont vous venez de publier chez Odile Jacob, Croyance, on a l'impression quand même que s'il y avait une religion qui vous plairait le plus, ce serait quand même le bouddhisme. Vous avez beaucoup de reproches à faire aux autres religions, et finalement, dans le bouddhisme, vous trouvez quand même quelque chose qui d'une certaine façon, peut servir de viatique, en tout cas pour traverser cette vie qui, évidemment, ne fait pas sens. Mais quand même, cette religion semble vous convenir mieux sur le plan, en tout cas, philosophique et intellectuel.
Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas une religion. Il n'y a pas de credo, il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a rien à croire. Le bouddhisme se dit même ennemi de toutes les croyances, bien que, comme je le dis dans le livre, il en accepte quelques-unes, forcément.
Voilà, forcément.
Il est forcément perméable, tout au moins dans certaines de ses traditions, hein, telle ou telle croyance, quelquefois venue d'ailleurs, en particulier de l'hindouisme. Mais il se définit comme une non-religion, plutôt comme une pas une philosophie, une manière de vivre, a way of living, une manière de vivre, et aussi comme une tradition. Et c'est très important qu'une tradition, quand elle se maintient pendant longtemps, il dirait la même chose du christianisme, si le christianisme a duré aussi longtemps, c'est qu'il y a quelque chose dedans d'intéressant et de vrai. Il faut trouver quoi.
Oui, c'est la difficulté.
C'est ce qu'il dit toujours. Il dit, et que, il n'est pas le seul à le dire pour le bouddhisme. Nous avons une énorme bibliothèque bouddhique. C'est la plus grande de toutes les traditions au monde. Si quelque chose dans votre tradition islamique, chrétienne, athée, ne vous convient pas, venez nous interroger. Nous avons peut-être une autre manière et de poser les questions et de donner les réponses. C'est presque comme une université. Si vous allez à Dharamsala, vous avez des petits groupes d'étudiants venus du monde entier dans la montagne qui viennent pour un an, deux ans, trois ans poser des questions. Et la réponse n'est jamais catégorique. Ce n'est jamais un dogme qu'on vous assène et qu'il faut apprendre par cœur. Vous voyez, c'est ce qui est le propre de la plupart des religions.
De la plupart des religions, en tout cas instituées.
Oui. Instituées, oui. Alors, en ce sens, c'est une religion évidemment plus souple, plus ouverte, si c'est une religion.
Oui, c'est
mais c'est une religion sans Dieu, sans démon. Alors, il a joué lui-même un très grand rôle pour débarrasser le bouddhisme de démons et de déesses bienfaisantes ou malfaisantes. Il a fait le ménage, comme on l'a dit de lui-même, mais il ne laissera pas le bouddhisme comme il l'a trouvé.
Et en même temps, il y a quand même dans le bouddhisme une idée d'une forme de vie après la mort, peut-être même d'un retour à travers des réincarnations successives, autant de choses qui ne plaisent pas aux, je dirais pas aux scientistes que vous êtes, mais enfin aux rationalistes que vous êtes, mais dans le bon sens du terme, hein, je l'entends.
Ne commencez pas à m'insulter.
Non, voilà, je veux pas vous insulter. C'est pour ça que je fais attention aux termes que j'emploie. Mais je veux dire, quand même, dans ce livre, vous avez une approche, vous dites quand même, la science nous dit des choses qui font que nous ne pouvons pas accepter ce que vous appelez quand même des sornettes.
Oui, c'est là. Ailleurs, voilà. C'est là où je vous disais que le bouddhisme reste perméable à certains, par exemple la réincarnation qui vient de l'hindouisme et qui s'est développée dans certaines formes du bouddhisme est une croyance. Absolument rien. La croyance est une certitude sans preuve. Hein, oui. La définition d'Alain, la fameuse définition. Donc la réincarnation, rien ne prouve la réincarnation. Absolument rien.
Absolument.
Et le karma, le poids des actes de notre vie qui va faire que nous allons nous réincarner dans un personnage magnifique ou dans un crapaud selon nos faits et gestes. C'est une croyance tellement naïve que on ne peut la qualifier que de croyance. Vous voyez, c'est vrai que mais il a fait beaucoup pour lutter contre ça sans y parvenir tout à fait parce que la force de la superstition est telle autour de nous que nous saisissons la moindre occasion pour nous y rattacher. Nous sommes tellement insatisfaits du monde dans lequel nous vivons que nous en voulons à tout prix un autre et que nous ne perdons aucune occasion, que l'on soit philosophe religieux, que l'on soit Platon ou que l'on soit le pape, de dire ce monde n'est pas le vrai. Le monde où nous vivons n'est pas le vrai, il y en a un autre. Le monde des idées pour Platon ou d'autres, ou plusieurs autres, que nous pourrions gagner après notre mort. Au lieu de ce néant qui nous attend et qui est, je crois, la pire des choses à admettre. La plus difficile des choses à admettre, c'est que nous venons du néant et que nous y retournons.
Et ça, vous en êtes absolument convaincu. C'est quelque chose auquel vous êtes arrivé avec une vraie certitude. Est-ce que vous l'aviez déjà quand vous étiez jeune?
C'est pas une vraie certitude, parce que ça, ce serait une croyance.
Voilà, ce serait une croyance
mais
à nouveau, bien sûr.
C'est un fait.
C'est comme ça que vous le ressentez.
Oui.
Mais est-ce que vous l'avez toujours ressenti comme ça? Est-ce que votre intérêt pour toutes les religions, les spiritualités que vous avez quand même étudiées, vous avez beaucoup aimé l'Inde, vous avez beaucoup voyagé, est-ce que c'est pour répondre à ce sentiment de néant que vous aviez déjà, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes arrivé plus tard?
C'est plutôt pour tout simplement rendre ma vie plus intéressante, pour enrichir d'abord en ce qui concerne le Mahabharata, pour faire que notre travail soit aussi bon que possible, aussi digne de l'œuvre originale que possible. Par exemple, au centre du Mahabharata, il y a la Bhagavad Gita, qui est probablement le texte religieux le plus célèbre de tout l'Orient. Je peux vous dire une phrase de la Gita que Krishna dit à Arjuna à un moment donné, où il lui dit « Tout ce qui existe, que ce soit visible ou invisible, provient d'une union entre le champ, field, le champ, et le connaisseur du champ. » Le champ, en sanskrit, c'est « kshetra », etc. Gnia. Gnia, c'est Gnoein, la racine de connaissance. Donc, entre le champ et celui qui connaît le champ. Cette phrase-là a toujours été mal traduite jusqu'à ce qu'une américaine, Barbara Stoller-Miller, qui est hélas est décédée maintenant, une grande sanskritiste américaine, trouve le véritable sens. Et quand on a trouvé ce véritable sens, c'est la mécanique quantique et la relativité générale. C'est-à-dire que tout ce qui existe, il faut qu'il y ait un observateur et quelque chose à observer. Mmh. Et c'est de l'union de ça. Tous les scientifiques à qui j'ai cité cette phrase m'ont dit, mais c'est extraordinaire qu'il ait eu cette intuition il y a si longtemps que quelqu'un ait pu écrire ça. Alors ça, des découvertes comme ça, évidemment, sont un enchantement. C'est plus intéressant de vivre avec ce genre de rencontre que sans.
France Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar. Ça veut quand même dire que vous avez un rapport à la mystique qui est quand même chevillé au corps. C'est, pour vous, c'est extrêmement important, si c'était quand même la plus belle chose que les êtres humains aient pu produire.
Je crois que les grands poèmes mystiques, qu'ils soient persans, et Dieu sait s'il y en a de magnifiques, sont parmi les plus beaux textes que j'ai jamais lus, les plus exaltants, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que je crois à un Dieu qui les aurait inspirés. Non, mais du point de vue de l'activité politique humaine, ça atteint, oui, Attard est au niveau de Rimbaud. Ça, c'est, vous voyez, c'est pas qui, lui, n'était pas suspect d'être un mystique. D'ailleurs, j'ai trouvé des correspondances assez surprenantes entre les deux, quelquefois.
Alors, racontez-nous votre rencontre avec ce texte de Attard.
Alors,
que vous avez adapté sous le titre « La conférence des oiseaux ».
La conférence des oiseaux, oui. Et le titre peut être « L'assemblée, la parole des oiseaux, le cantique des oiseaux », comme vous l'avez vous-même traduit. C'est un texte donc de Fariduddin Attar, qui est un... Attar veut dire le parfumeur, mm-hmm. je crois, en persan, qui est un des grands poètes de la grande période de la poésie persane. Et ce texte, nous le connaissions quand nous avons commencé à travailler avec Peter Brook, en 1974, notre groupe s'est formé. J'ai travaillé 39 ans avec lui, donc je travaille encore. Nous avons une pièce qui tourne en ce moment un peu partout dans le monde. Et ce texte nous avons beaucoup admiré dans la traduction de Garcin du Tassy, en français, ce texte, assez court. Et nous a servi longtemps à faire des exercices, comme il s'agit d'oiseaux, mais d'oiseaux dont les pattes deviennent peu à peu des jambes, dont le bec, quelquefois, devient une bouche. Donc, il est très très clair qu'il s'agit de quelque chose d'allégorique, qui font un voyage pour aller trouver leur vrai roi. On s'en est servi comme de exercices vocaux, bien entendu, et corporels, en groupe, etc. Avec le travail avec Peter Brook, c'est toujours 2 heures d'exercice tous les matins. Pour s'échauffer à la fois le corps et la pensée, si j'ose dire, avant de se mettre au travail. Et en 79, au mois de janvier, comme nous étions invités par le Festival d'Avignon à donner un spectacle au mois de juillet, Peter m'a demandé si je me sentais capable d'écrire rapidement une pièce qui n'est pas de 3 heures, une pièce d'1h20, quelque chose comme ça, que nous jouerions avec une autre pièce plus courte, et que nous pourrions présenter en juillet. Ça fait très très peu de temps. Il m'a dit, j'essaierai de faire la mise en scène en même temps que tu écriras. Alors j'ai écrit donc à ce moment-là cette pièce, et partons à Avignon avec notre troupe, et nous avions, chose que très très imprudente, nous n'avions que 2 représentations avant la première. Mmh. La première, et je jouais en plein air. La première représentation, il y a eu un orage terrifiant qui a inondé et nous n'avons absolument plus joué. Alors on s'est dit, bon, on va voir demain. Le lendemain, on avait oublié que c'était le 14 juillet. Donc plein de pétards partout et de feux d'artifice. Là aussi, représentation très difficile. Mais on s'était quand même rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Enfin, je ne me rappelle plus lesquelles. Et là, c'est l'avantage d'avoir une compagnie bien tenue, bien solide. Toute la nuit précédant la première, Peter et moi, avec tous les acteurs, on s'est enfermés. Et moi, on faisait des coupes, on répétait, on changeait le texte. C'est, ouais, on a fait toute une série de ce qu'on appelle des raccords. Et le lendemain soir, c'était un triomphe. C'était la pièce était magnifique.
Et oui, tous ceux qui ont assisté en parlent avec des trémolos dans la voix. Et mon grand regret, c'est qu'il n'y ait pas de film. Ça n'a pas été
capté. Non, ça n'a pas. Alors, on pensait, figurez-vous qu'on pensait que c'était intournable. Peter disait, c'est vrai, c'est une pure mise en scène théâtrale. On commente le tournée. Quand un jour, au cours de le tournée, on a joué en Australie sur une plage au bord de la mer. Et la télévision australienne on a filmé 20 minutes, c'était magnifique. Et là, on a beaucoup regretté.
Ah oui, donc c'est disponible.
Mais ces 20 minutes, ça existe quelque part, mais nous ne les avons pas. Mais c'était très très beau. Ouais. C'était, il fallait évidemment le tourner en plein air et la mer ajoutait beaucoup, etc.
Et alors, outre ce travail évidemment théâtral, proprement théâtral, qui a dû être passionnant, qu'est-ce que ce texte vous a apporté? Qu'est-ce que finalement, dans votre parcours personnel, quel a été le qu'est-ce que cette rencontre, en fait, avec un texte et un auteur, quelle a été l'importance de ce texte?
D'abord,
Jean-Claude Carrière.
Ce qu'il y a de toujours de merveilleux, c'est de rencontrer un beau texte. Ça, quel qu'il soit, ce court voyage des oiseaux est rempli d'anecdotes, tout instructives, très amusantes quelquefois, très inattendues, comme l'histoire de l'homme à la barbe, enfin, qui s'arrache la barbe, enfin, etc. Et arriva après le passage, je le dis en bref, de 7 vallées successives qu'il faut traverser avant d'arriver à la vérité, au cimorgue, que le roi légitime, notre roi légitime, le mot Dieu n'est pas vraiment prononcé. Il faut les franchir, et quand on arrive devant, ça c'est extraordinaire, devant le cimorgue, ce n'est qu'un miroir dans lequel on se voit, et on se voit soi-même. Et une phrase dit, vous avez fait un long voyage pour arriver à vous-même. Phrase qui sera reprise par Rumi, disciple d'Attar,
d'une que forme vous avez traduit aussi
plus poétique, vous avez fait un long voyage pour arriver au voyageur. Cette phrase-là est centrale dans le cantique, le voyage, l'assemblée, la parole, la conférence des oiseaux. Dans l'histoire des oiseaux, elle est centrale, mais il n'y a pas que ça. Il y a, avant d'arriver là, toute une série dans chacune des vallées que nous traversons, on pourrait dire des planètes, pourquoi pas. Chacune des vallées que nous traversons, il y a une révélation, par exemple, la vallée de la stupeur, où les choses ne sont ni ceci ni cela, mais elles sont ceci et cela. C'est cette abolition des contraires que tant de philosophes et que tant de poètes, y compris surréalistes, ont cherché à abolir les contraires. Elle est là, elle est déjà là. C'est fabuleux de trouver au XIIe siècle quelque chose qui, encore aujourd'hui, nous hante. Nous presse, nous exige de nous un effort, en tout cas. Vous voyez, on a toujours, encore maintenant, pour la conférence des oiseaux, quand nous l'avons fait, avec Peter, nous nous disions, c'est un sommet, on ne trouvera jamais quelque chose du même niveau, qui aille aussi haut, à la fois dans l'expression et dans la pensée. Et puis le Mahabharata est arrivé, qui nous a enveloppés et qui nous a emportés ailleurs, je ne dis pas plus haut, je ne dis pas plus, mais dans un autre monde et avec alors une épaisseur et une quantité de niveau de pensée, d'impression, de réflexion, de drôlerie aussi quelquefois, de farce même, qui est impressionnant, et nous y sommes noyés.
Immergés. Et d'ailleurs, ça a donné à la fois une pièce et un film.
Et un film.
L'avantage, c'est que le film, on peut encore le voir.
Oui, et une série télé. Il y a une série télé de 5h30 qui a été, je me rappelle, présentée à l'Iran, à un aéropage de mollahs barbus, absolument pas une femme, pour savoir si on pouvait le diffuser à la télévision iranienne. Alors, ils ont demandé avant, au moins, est-ce qu'il n'y a pas de femmes nues dans le... Alors, on a bien réfléchi, on a dit non, il n'y a pas de femmes nues, mais Il y a quelquefois des hommes à la poitrine nue. Ça n'a aucune importance.
Ça ne pose pas de problème. Bien sûr. Ouais. Alors, d'ailleurs, dans votre livre « Croyance », donc le dernier livre que vous avez publié, au fond, c'est à cette conclusion-là que vous arrivez. C'est-à-dire que, finalement, vous tournez autour de l'idée de Dieu en disant, finalement, ce n'est même pas une discussion, ce n'est même pas un sujet, en quelque sorte.
C'est pas un sujet,
oui. Mais que, au fond, la seule chose qui compte serait peut-être d'arriver à ce à quoi les oiseaux arrivent, c'est-à-dire de comprendre que le divin, c'est quelque chose qui est... C'est nous-mêmes.
C'est nous-mêmes.
Donc c'est vraiment le fruit de votre...
S'il y a quelque chose de divin en nous, essayons de ne pas l'étouffer. Essayons de ne pas le tuer par une mécréance systématique, injurieuse et hostile. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne crois en aucun dieu, mais je ne suis pas hostile du tout aux religions. Je trouve que, si vous voulez, contrairement à Sartre ou à d'autres philosophes qui ont dit il faut absolument vivre sans religion, qu'est-ce que c'est que ce tas de bêtises et de sornettes, comme il m'arrive de le dire. Non, moi je dis la religion fait partie indiscutablement de la vie des hommes et des femmes. C'est de notre vie sociale même. Et peut-être même nous dit-elle sur nous-mêmes des choses qu'elle est la seule à dire. Si vous ouvrez un compas sur les activités humaines, vous le prenez l'angle économique, l'angle idéologique, l'angle social, aucun n'est aussi largement ouvert que l'angle religieux pour nous observer. Parce que ça va de la pureté la plus totale, le sacrifice entier de soi-même, à la cruauté la plus barbare et la plus sanglante que nous voyons ressurgir aujourd'hui. Donc l'angle est très très large, vous voyez, c'est ce qui m'a toujours frappé dans les religions. Et nous avons fait avec Louise Buñuel, avec qui j'ai longtemps travaillé, un film entier sur les hérésies de la religion chrétienne, la Voie lactée. Buñuel a rêvé depuis longtemps de faire ce film, en ne nous souciant nullement du temps et de l'espace. Deux pèlerins partent de Paris pour aller, soi-disant, à Santiago de Compostela, mais ils arrivent en Judée, au Moyen-Âge, et traversent toutes les... Mais pour faire ce film, j'ai passé un long temps à m'instruire sur l'histoire des hérésies, qui est absolument passionnante.
Oui. Parce que, dans toutes les religions, d'ailleurs.
Dans toutes les religions.
Dans le christianisme, c'est particulièrement...
C'est des déviations, même dans le marxisme, sont souvent plus intéressantes que la doctrine centrale. Dans un livre très anti-religieux de André Breton, qui s'appelle « À la niche, les glapisseurs de Dieu », le titre dit tout. Il dit dans une phrase qu'il accepte, que les surréalistes acceptent de se reconnaître avec les hérétiques quelques points de contact. C'est très intéressant de voir que là, il y a dans ce frémissement de... Parce que l'hérétique ne peut pas accepter le dogme, mais il doit le connaître. Il doit connaître le dogme et y creuser sa petite niche, qui sera sa vérité à lui, et pour laquelle il est prêt à mourir et hélas à tuer. Comme on le voit encore aujourd'hui entre les luttes entre chiites et sunnites à l'intérieur de l'islam, ce qui est totalement incompréhensible d'un point de vue rationnel. Vous voyez. Mais si on se place de notre point de vue, du point de vue d'une recherche absolue de la vérité qui ne serait la mienne et pas celle de mon voisin, on arrive, je ne dirais pas à une compréhension, mais à une ouverture un peu plus large sur les phénomènes qui nous accablent aujourd'hui.
Oui, vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez même enseigné la question hérétique devant des jésuites.
Quand, c'était assez intéressant parce que quand la Voie lactée est sortie, le journal Paris Match a eu l'étrange idée de me faire rencontrer 4 jésuites et 4 dominicains pour discuter avec eux et faire un grand entretien dans Paris Match. Je vous dis tout de suite que l'entretien n'est jamais paru. Mais je me suis trouvé donc en face de 4 jésuites pendant toute une journée, et c'était absolument passionnant, parce que les jésuites ont été très vite conquis à notre approche, très vite. Ils étaient souples de pensée, ils étaient prêts à... Les dominicains étaient fermes, très très fermes sur la position.
J'aurais pas cru.
C'était très intéressant. Oui. Peut-être ça a changé depuis, et ça dépend aussi des... Mais enfin, la discussion a été très passionnante. Et comme je m'étais rendu compte, d'ailleurs, ça a été publié aussi dans la revue L'Avant-Scène, il m'avait semblé que les hérésies, en tout cas dans notre religion, naissent toujours de l'impossibilité où se trouve notre esprit d'accepter des notions contradictoires. Par exemple, la double nature du Christ. Il est Dieu et homme. Mais ça veut dire quoi? S'il est Dieu, il ne peut pas mourir sur une croix. Il n'a pas une mère, il ne souffre pas, etc. S'il est homme, il ne peut pas faire de miracle. Il ne peut pas donc. Mais le mystère, c'est qu'il faut accepter les deux. Il est absurde, credo qu'il y a absurdum, je crois, parce que c'est absurde. C'est la vérité. Puisque c'est absurde, ça ne peut être que divin. Donc je crois dans ce mystère-là. Je crois qu'on m'a dit la vérité, même si mon esprit est incapable de l'accepter. À partir de là, on voit qu'il y a deux catégories d'hérétiques, ceux qui disent Jésus était Dieu et pas homme, et ceux qui disent Jésus était homme et pas Dieu, visité par Dieu, etc. Les deux vont te bûcher. Hein, les deux vont... Il y en a eu tout au long de l'histoire. Oui. Il y a six grands mystères, je ne peux pas vous les énumérer, je ne vais pas vous faire un cours. Le sixième, c'est ce qu'on appelle les mystères Mario, qui concerne la Vierge Marie. Les cinq autres, un de ceux qui hantaient Buñuel et les manichéens et beaucoup d'autres, c'est l'existence du mal dans le monde. Comment se fait-il que Dieu étant immensément bon, il est ainsi défini partout, il ait laissé le mal s'installer dans le monde à tel point, dans une telle intensité, disons. Alors, voilà, j'ai fait là-dessus un texte qui a été publié dans la revue Études, la revue des Jésuites. J'en ai parlé au grand séminaire de Beauvais, etc. J'ai été reçu par pas mal d'autorités religieuses qui savaient très bien que je n'étais pas croyant, mais qui avaient un point de vue de ma part sympathique, essayant de comprendre. C'est ce qui est, par exemple, j'en parle dans Croyance, très difficile à admettre pour nous, c'est la notion de martyr. Et c'est un mot, comme vous le savez, qui hante nos journaux tous les jours aujourd'hui. Martyr, ça veut dire témoin. Hein, c'est le sens.
D'ailleurs, en arabe aussi.
En arabe aussi, oui. Mais quand saint Augustin parle des martyrs chrétiens, persécutés par Dioclétien ou par d'autres empereurs romains, pour lui, mourir en martyr, c'est prouver la réalité de sa religion. C'est le martyr est il est témoin d'une vérité, donc il prouve que la religion pour laquelle il meurt est la vraie. Mais quand le christianisme prend le pouvoir à Rome au IVe siècle, après l'édit de Théodose, qui impose à tout le monde romain la religion chrétienne sous peine de mort, il y a beaucoup de martyrs manichéens et autres qui meurent au nom de leur foi, qui n'est pas la foi chrétienne. Dans ce cas-là, ils ne prouvent pas la vérité de leur foi, ils sont, comme dit l'Église, entêtés dans leur erreur. Donc vous voyez, deux poids, deux mesures, mais alors un point extrême de différence. Puisque d'un côté, la mort prouve la vérité, de l'autre, elle prouve l'erreur. C'est absolument incroyable, même que l'on puisse, dans l'histoire de la pensée, lire des choses pareilles sans les remarquer, quelquefois. Ouais.
Mais ça, c'est une question vraiment qui vous hanterait presque. Hein, on pourrait presque dire ça. C'est-à-dire cette méditation de voir comment l'être humain, au nom de valeurs qui normalement devraient nous aider à devenir meilleur et à glorifier la vie, si j'ose dire, eh bien, au nom de cela, ils portent la mort et ils sont prêts à mourir. Comme ça, je pense, quand je vous lis, j'ai quand même vraiment le sentiment que ça entre dans une sorte de résonance sur votre propre réflexion sur la mort, sur votre propre réflexion sur le mal, et que d'un coup, d'ailleurs, la véhémence de vos propos, on la comprend. C'est-à-dire que vous vous dites, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'alors que nous sommes déjà des êtres pour la mort et que c'est déjà une tragédie, comment, au nom de ces valeurs qui sont normalement des valeurs de vie, des gens peuvent venir tuer ou se faire tuer, ce qui pour vous est presque la même chose. C'est la même fascination abominable pour
l'amour de la mort. L'amour de la mort est une chose que l'on vient de redécouvrir, mais qui n'est pas nouvelle. Nous l'avons, ce que nous reprochons aujourd'hui aux islamistes frénétiques, nous l'avons nous-mêmes fait, autrefois. Quand la première croisade s'empare de Jérusalem en 1099, sous les ordres de Godefroy de Bouillon, on tue tout le monde, et les chroniqueurs européens se flattent du fait que les croisés marchaient dans le sang jusqu'aux genoux. Alors on tue qui? On tue les Arabes, bien entendu, les musulmans, on tue les Juifs, qui étaient nombreux, et on tue les chrétiens. Il y avait pas mal de chrétiens à Jérusalem qui sortaient de leur maison en brandissant des croix et en disant « nous sommes chrétiens ». On les a tous tués, les chrétiens les ont tués, les croisés, parce qu'ils pensaient qu'ils mentaient pour sauver leur peau. Ça atteint des points par moments où l'esprit se heurte à une muraille d'incompréhension sanglante qui fait peur. Aujourd'hui, ce que nous voyons, moi j'ai décidé d'écrire ce livre Alors, j'avais des documents depuis longtemps, je me suis toujours intéressé aux religions, je vous l'ai dit, il n'y a pas eu que la Voie lactée, la controverse de Valladolid aussi m'a amené
à... ça c'est magnifique, c'est une des plus belles choses que vous avez faites.
À beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la foi de l'autre, quand on arrive sur quelqu'un qui... Le Christ a dit, allez enseigner toutes les nations, on arrive sur un continent entier où il n'y a pas trace de la parole du Christ du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a refusé de les prendre dans son royaume, de les accepter? Ça, c'était des questions absolument profondes à l'époque, vous voyez. Donc, alors, toute ma vie m'était intéressé aux religions. Je savais que nous n'avons pas eu de guerre de religion, en tout cas en Europe, depuis les Camisards, depuis le début du XVIIIe siècle. Nous n'avons pas manqué de guerre, nous en avons eu beaucoup, mais ni Napoléon, ni Bismarck, ni Hitler, ni à plus forte raison Staline, ne se sont réclamés d'un drapeau religieux.
Du tout.
Et tout à coup, il y a 6 ans, avec Daesh, et le soi-disant, comme on dit, califat, on voit réapparaître la foi comme moteur de guerre, et de décapitation, et de torture. C'est tout à fait nouveau. Depuis 3 siècles, nous pensions que ça avait disparu. Or, ça revient, et avec une brutalité...
D'ailleurs, ça avait disparu même du monde musulman.
Oui, oui, absolument.
C'est ça qui est
étonnant.
Mais,
et ça revient de tous les mondes, pratiquement. Sauf peut-être quelques cas isolés qu'on pourrait toujours trouver ici ou là. Mais, et c'est ce qui m'a décidé à écrire ce livre, ne serait-ce que pour y voir clair à moi-même sur cette notion de croyance. Et je me rappelle au tout début, ça m'avait énormément frappé, à la télévision, je crois que c'était à Alep, un Syrien, un petit commerçant devant son échoppe, vendant des figues et des dattes, qui disait comme ça, mais tranquillement, avec une espèce d'évidence quotidienne, qui disait, mais c'est très simple, les chiites, il faut les tuer, c'est tout. Ouais, moi, si je vois un chiite, je le tue. Comme s'il s'agissait de cueillir une pomme à un arbre, vous voyez. Comme si la vie humaine, la vie de celui qui n'a pas la même pensée religieuse que moi, n'était rien. Comme si, voilà, la solution est très simple. Et ça m'a beaucoup frappé, mais ça revient, je veux dire, entre musulmans qui ont le même Dieu, le même prophète, le même livre sacré, etc., qui ont simplement des différences dans la transmission de la pensée première. Je veux dire, comment est-ce possible que quelqu'un dise ça aujourd'hui? Et non seulement on l'a dit, mais on l'a fait.
Bien sûr, mais est-ce que vous pensez pas, souvent moi quand je réfléchis à cette question, j'ai presque pas l'impression que c'est à cause de la religion ou pour des raisons religieuses qu'ils font cela. Je m'explique. J'ai quand même le sentiment qu'en fait, il n'y a pas plus nihiliste, il n'y a pas plus matérialiste que ces gens-là, puisque même ce qui est censé relever du ciel, ils veulent absolument en faire quelque chose ici et maintenant pour servir leurs intérêts immédiats, évidemment, que ce soit pour se rassurer dans leur foi ou pour carrément des espèces sonnantes et trébuchantes, pour prendre des terres, etc. Ouais. C'est là où j'aurais un désaccord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que vraiment, c'est qu'on est confronté à quelque chose de vraiment terrifiant qui doit nous poser question aussi sur nous-mêmes. Ça aussi, j'aime beaucoup parce que vous ne nous séparez jamais de l'humanité. Tout ça, c'est de l'humanité.
Non, en plus, il n'y a pas de désaccord entre nous. Ce que vous dites est évident. En dessous de la proclamation religieuse, il y a évidemment des intérêts économiques, sociaux, de domination, etc., de pétrole, enfin, on en a beaucoup parlé. Mais quand même, ça va jusqu'au martyr. C'est-à-dire qu'il y a des islamistes déclarés, comme que nous appelons radicaux, qui se tuent, qui se font sauter pour en tuer d'autres. Et ça, quand même, c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire. Oui. J'en ai quand même trouvé un exemple dans le passé. Mais un seul, parce qu'évidemment, pour faire cela, il faut d'abord que les explosifs soient inventés.
Évidemment.
Mais dans le passé, dans la Bible, il y a l'exemple de Samson. Quand il se tue, il ébranle les colonnes du temple pour écraser les Philistins avec lui. C'est le premier kamikaze de l'histoire, de l'histoire religieuse. Alors, ce que vous dites est vrai, enfin, ce que nous disons la même chose, en fait.
Oui.
Mais ce qui est étonnant, c'est que, quel que soit l'intérêt, conquérir des terres, conquérir du pétrole, de l'argent, etc., duquel nous partons. Et pour, en prenant la foi comme étendard, la vraie foi, nous en arrivons à des massacres qui sont nouveaux, que nous n'avons pas vus
Sous cette forme, en tout cas récemment. Oui.
À quoi s'ajoute le fait que ça se passe dans la partie du monde d'où nous faisons venir notre civilisation.
Oui. Voilà,
et qu'on voit alors les ravages de l'islam quand il s'agit de parler de ce qui a précédé l'islam. On détruit.
Bien sûr.
On détruit Palmyre, on détruit tout ce qui...
Et là, c'est vrai qu'à nouveau, c'est nouveau.
C'est nouveau, enfin,
puisque
oui.
Les Bouddhas de Bamiyan étaient là depuis des siècles, que personne n'avait trouvé à y redire.
Oui. Voilà. Moi, j'ai commencé à sentir ça il y a 20-25 ans. J'étais au Yémen pour un film, pays que j'aimais beaucoup, un des plus beaux du monde,
oui,
qui est dans un état maintenant...
catastrophique.
Et il y avait à Sanaa un musée, dans lequel il y avait des œuvres X, dans lequel il y avait beaucoup d'œuvres pré-islamiques, des statues figuratives, donc, qui aujourd'hui valent très cher dans les salles des ventes, mais qui étaient à la cave, qui étaient avec des toiles d'araignée, qu'on ne montrait pas, vous voyez, qui étaient cachées. On ne montrait que l'art islamique, c'est-à-dire un art géométrique, des céramiques, vous voyez, des
choses comme ça. J'espère qu'ils sont toujours protégés dans ces caves. L'avantage de ne pas être exposé, c'est que peut-être...
Mais Sanaa est dans un tel état aujourd'hui,
oui.
on peut beaucoup s'inquiéter.
On peut s'inquiéter.
Cela dit, on peut faire confiance aux marchands.
Oui,
et aux,
c'est l'avantage
aux, et aux voleurs,
aussi.
C'est ça, oui. Moi, j'ai été, à une époque, membre du comité de gestion du musée Guimet. Et à l'époque de l'invasion de l'Afghanistan et des troubles en Afghanistan, il y avait un musée en Afghanistan qui était menacé. Avec l'aide d'un musée allemand oriental et le musée Guimet et le musée de Kaboul, nous avons fait construire un faux mur ancien derrière lequel nous avons caché les belles pièces pour ne mettre que des copies qui ont été détruites par les talibans. Ils ont détruit que des copies. C'est malheureusement pas la même chose à Bagdad.
Oui.
Il y a eu des vraies destructions.
Des vraies destructions, bien sûr.
Et à Damas.
Alors Jean-Claude Carrière, cette émission est en train malheureusement de toucher à sa fin. On vous écouterait longtemps comme cela. Mais je ne voudrais pas quand même que nous nous quittions sans que vous nous disiez un mot de Shakespeare et peut-être sans que vous nous lisiez un extrait de La Tempête et qui est justement un très très beau texte. C'est Prospero qui parle dans La Tempête. Donc peut-être vous nous dire deux mots de ce qu'a été Shakespeare pour vous, ce votre travail que vous avez fait avec Shakespeare et puis on terminera avec votre voix Shakespeare.
Quand on travaille avec Shakespeare, ça m'est arrivé quatre fois, j'ai adapté avec Peter Brook, quatre de ses pièces, on atteint le plus haut niveau possible de l'expression humaine. Il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu lire ou écouter ou entendre, je n'ai jamais atteint un tel niveau dans l'expression. C'est assez prodigieux par moments. Donc, travailler avec lui est un exercice pour l'esprit très formateur, parce que ça vous oblige vous-même à tirer de tout ce que vous pouvez, en sachant que vous ne l'atteindrez jamais. Je raconte souvent qu'il venait s'asseoir à côté de moi quand je travaillais, et qu'il regardait par-dessus mon épaule, il disait « oui, c'est pas mal ça, mais c'est pas tout à fait comme en anglais. » Tu vois, en anglais, il y a cette petite... Mais cela dit, ça vous apprend, Shakespeare vous apprend à écrire en français, d'abord. Vous apprend à écrire, tout simplement. Il a une forme d'expression très très particulière, très propre, très inattendue, très souvent, et qu'on retrouve partout. La chanson de Dalida, Parole, c'est une réplique de Hamlet. Words, etc. On le retrouve dans la comédie musicale Air. Il y avait toute une chanson qui est directement de Hamlet. What a piece of work is man, so noble in reason, so infinite in faculties. C'est directement de Hamlet. On le pique comme ça, on le met. C'est merveilleux. Shakespeare, il est partout.
Oui, c'est presque comme un texte sacré dans
ce sens. Alors, dans La Tempête, il y a un texte que nous avons traduit, où Prospero, le roi en exil, devenu magicien, dit adieu au monde ancien. Shakespeare se trouve vivant à la limite entre le monde ancien et, quelque temps après, Descartes, qui est là. Descartes et Spinoza ne sont pas loin. Donc, il y a ce texte où Prospero, ailleurs dans la pièce, sa fille Miranda annonce le fameux Brave New World, le brave, c'est pas le mot,
le
meilleur nouveau monde qui arrive, le beau nouveau monde. Et il y a un texte où Prospero dit adieu à la magie, lui qui est magicien. Et c'est un texte magnifique, aussi bien en anglais qu'en français, ou j'espère dans toute langue.
Et vous voulez quoi? Oui, je veux bien, vous nous le lisez dans votre traduction, justement.
Je vais le lire dans... Voilà. C'est vers la fin de la pièce. Il a congédié Ariel, son esprit céleste, aérien, et il dit « Elfe des ruisseaux, des collines, des lacs tranquilles, des bosquets, et vous qui, sans laisser de traces sur le sable, chassez Neptune quand il fuit et le fuyez quand il revient, et vous, demi-pantins, qui tracez sous la lune les cercles verts, amers, que la brebis évite, et vous qui, pour passer le temps, faites surgir les champignons de la minuit, heureux quand retentit le grave couvre-feu, vous avec qui, maître, pourtant si faible, j'ai obscurci le soleil de midi et provoqué la révolte des vents, et entre la mer verte et la voûte d'azur jeté une hurlante guerre, et à ce terrifiant et crépitant tonnerre donné le feu et de sa propre flèche fendue de Jupiter le chêne vigoureux, ébranlé le massif promontoire, arraché à grands coups d'éperon le pin comme le cèdre, à ma commande, les tombeaux ont réveillé leurs endormis, se sont ouverts et ils se sont dressés, tant monarques et puissants. Cependant, cette magie brute, ici, maintenant, je l'abjure, et quand j'aurai requis la musique céleste, ce que je fais à l'instant même, qui à leur sens imposera mon but, charme venu de l'air, c'est ton utilité, alors je briserai mon bâton, et sous terre, profondément, je l'ensevelirai, et plus bas que jamais n'a résonné la sonde, je noierai mon livre à jamais.
Merci infiniment, Jean-Claude Carrière, pour cette lecture, pour cet accueil, pour ce cheminement que vous avez accepté de faire avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, qui a remporté le prix Psychologie Magazine FNAC, notre partenaire pour cette émission, « Croyance au singulier », paru chez Odile Jacob. C'était « Les racines du ciel », une émission de Leïli Anvar. Vous pouvez podcaster cette émission pendant un an ou la réécouter pendant 1000 jours sur le site de France Culture. Dans quelques instants, je vous laisse avec le journal de la rédaction de France Culture. Excellent dimanche à tous.